La chronique de Marc-Antoine Godin est une présentation d'Athlétique.com, le plus grand magazine web quotidien de sport en Amérique. Profitez de 40% de rabais sur votre première année d'abonnement en allant au athlétique.com/ l'amour du hockey.
Plus que 4 dodos avant le premier match des séries du Canadien. Ce sera donc jeudi contre les Leafs, une première en plus de 40 ans. Marc-Antoine Godin est avec nous. Salut Marc-Antoine.
Bonjour Evelyne.
C'est fou parce que le Canadien joue pas pendant une semaine et j'ai quand même vraiment beaucoup de questions pour toi. commençons par la base, là, par le fait que le Canadien affronte les Leafs, comme on s'y attendait pas mal depuis plusieurs jours, même semaines. J'énumérais tantôt dans mon introduction toutes les raisons pour lesquelles les Leafs ont l'avantage, mais celle qui m'inquiète le plus, c'est le fait que le Canadien arrive en série avec 5 défaites consécutives et 7 victoires à ses 20 derniers matchs. On parle pas vraiment d'un momentum. Alors, toi, tu le vois comment? Est-ce que tu penses que le Canadien va arracher quelques matchs dans cette série-là?
Bien, d'abord, oui. Je pense que le Canadien va réussir à remporter 2 matchs dans cette série-là. Sauf que par rapport à ton premier point, c'est clair qu'il n'y a aucun... Le Canadien n'a pas réussi à se générer de momentum en fin de saison. Sauf que le fait qu'il y ait une pause de 8 jours entre son dernier match puis le premier match des séries, ça fait en sorte que le Canadien ou les entraîneurs peuvent vraiment peser sur le bouton reset puis dire OK, là, la saison régulière est derrière nous. Ce qui s'est passé avant, ça importe peu. Et surtout, il faut comprendre que les circonstances qu'on connaît au niveau du calendrier condensé, des nombreux absents à cause des blessés, tout ça a fait en sorte que je pense que ça contribue à expliquer pourquoi le Canadien a fléchi en fin de saison régulière. Mais là, avec un alignement reposé, en meilleure santé, avec une opportunité de pouvoir tourner la page, je pense qu'ils vont au contraire dire « OK, ce qui s'est passé avant, on laisse faire, puis on essaie de repartir le plus possible sur de nouvelles bases. »
Et tu sais, cette semaine-là, elle est très certainement bénéfique pour les joueurs, comme tu l'as dit, mais elle l'est vraiment pour les partisans aussi. Moi, je pense que le spectacle va être bien meilleur, là. On a besoin de ça. Je trouve que le spectacle a vraiment écopé cette saison, surtout à la fin, là.
Je trouve que d'un soir à l'autre, on ne savait jamais quelle sorte de performance le Canadien allait nous sortir. Je pense qu'eux-mêmes ne le savaient pas. Il y a des soirs où ils commencent les matchs, ils sont inspirés ou en fin de saison, ils sont arrivés à revenir. 3 matchs de suite où ils avaient accordé le premier but. 2 d'entre eux, ils étaient en déficit de 2 buts, ils ont réussi à remonter pour gagner. Alors tu dis, bon, ben là, voilà, un bel exemple de caractère. Puis ils se présentent 24 heures ou 48 heures après, puis ils tombent complètement à plat. Alors là, je pense que le fait qu'il y ait un enjeu réel au niveau, tu sais, le Canadien était pris un petit peu dans le classement, dans les limbes. Il y avait une lointaine chance de pouvoir, il y avait une relative chance de pouvoir passer les Jets de Winnipeg. Il y avait une chance quelconque de se faire dépasser par les Flames de Calgary, mais il était un peu pris là où il était depuis un bon moment déjà. Tandis que là, chaque match va vouloir dire tellement, il va y avoir tellement d'enjeux que quand les joueurs ont parlé du fait que c'était difficile de trouver la motivation pour vraiment, soir après soir, donner leur maximum, ben là, en séries éliminatoires, ce ne sera pas difficile à trouver.
Parlons un petit peu de l'alignement, c'est ce qui fait beaucoup jaser. Là. Un des questionnements là, qu'on avait sur l'alignement il y a quelques jours, c'était de savoir si on allait mettre Staal ou Evans. Là, est-ce qu'on privilégie l'expérience ou l'efficacité? C'est un peu ça la question finalement. La réponse, selon ce qu'on a vu hier et aujourd'hui à l'entraînement, c'est les deux, parce que c'est Kotkaniemi finalement qui a été laissé de côté comme joueur de centre. Alors Ducharme, bon, il a gardé Staal pour son expérience, et entre Keke ou Evans, ben il est allé donc au mérite. C'est ce qu'on comprend. Est-ce que tu approuves ça?
Ouais, ben écoute, je pense que dans les derniers matchs, on essayait de trouver peut-être une signification à la saison, à ces derniers matchs de saison régulière-là. Puis je pense que la personne qui en a le plus profité, ça a été Jake Evans, parce qu'il a connu deux excellents matchs à couvrir Connor McDavid. Et ça, je pense que ça a ouvert les yeux des entraîneurs à l'effet que Evans, particulièrement en étant entouré de Lekkonen et Byron, pouvait fournir aux Canadiens un deuxième trio capable de museler les adversaires ou de contenir les meilleurs éléments de l'autre équipe. Puis ça, je pense que il a vraiment gagné sa place. On parlait de momentum. Lui, il s'en est créé un en fin de saison, un momentum. Mais je pense que ces deux derniers matchs-là ont vraiment cimenté sa place dans l'alignement. Alors, au départ, ça ressemblait à un choix entre Staal et Evans, mais en bout de ligne, ça s'est ramassé à être un choix entre Staal et Kotkaniemi, plus que entre Evans et Kotkaniemi. Parce que dans le fond, ouais, c'est d'une certaine manière, c'est parce que c'est tellement les joueurs de centre, c'est tellement important ces éliminatoires, tu peux pas en avoir trop dans ton alignement. Puis je pense que une des questions qui a dû être explorée par les entraîneurs, c'est de dire qu'il y a un de ces joueurs de centre-là qu'on pourrait utiliser à l'aile pour s'assurer d'en avoir cinq dans l'alignement. Là, finalement, ils décident d'y aller avec quatre joueurs de centre et de ne pas employer ni Evans, ni Stahl, ni Kotkaniemi à l'aile. Et je trouve que dans tout ça, c'est un petit peu regrettable que Kotkaniemi fasse les frais de ces décisions-là. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il a terminé la saison difficilement. Mais il faut se rappeler que avant la pause COVID, donc on remonte là, il y a six semaines, il était probablement le meilleur joueur de centre du Canadien. Puis à cette époque-là, c'est beaucoup plus Nick Suzuki qui avait l'air d'un jeune centre qui mériterait de passer un petit peu plus de temps dans la Ligue américaine. Ben oui, exactement. Ils n'ont pas été bons en même temps de toute la saison. Alors, il a fini en queue de poisson, c'est vrai. Sauf que là, le Canadien est dans une situation où, tu sais, il est rendu à sa troisième année. Il a été très efficace dans la bulle l'été dernier. Je pense que, tu sais, quand tout à l'heure, je te parlais de faire table rase sur la saison régulière, d'essayer de repartir sur de nouvelles bases, Jesperi Kotkaniemi, à mon sens, c'était le joueur parfait pour justement dire, pour changer d'approche, puis dire, hey, kid, on continue de te faire confiance, on croit en toi, puis va nous montrer ce dont tu es capable. Puis je pense que lancer ce signal-là dès le premier match, ça aurait été souhaitable pour son développement, puis un bon investissement pour le Canadien.
Par contre, tu vois, on dit de Caulfield qu'il est laissé de côté, mais que c'est pas un désaveu et qu'il va sûrement rentrer au troisième match. Est-ce que tu penses que ça peut être la même chose pour Kotkaniemi, ou si lui, c'est différent parce que la raison pour laquelle il va regarder des gradins, c'est pas pour son manque d'expérience, mais c'est pour ses performances?
Ouais, ben écoute, je pense que c'est difficile de les mettre tous les deux dans le même panier. C'est tentant,
c'est
parce que ce sont deux jeunes joueurs, ouais. Mais c'est ça, leurs situations respectives sont très différentes. Tu as tout à fait raison, Evelyne. Alors, lequel des deux va entrer en premier? Je pense que ça va aller selon le déroulement de la première rencontre ou des deux premières rencontres, puis des besoins qui émergent de ça. Mais personnellement, dans le cas de Caulfield, je suis pas surpris du tout qu'il soit pas de l'alignement pour commencer la série.
Non plus, ça m'a pas étonné, ça.
Ben non, Dominique Ducharme a laissé, tu sais, c'est comme le petit poussin qui laisse des miettes de pain derrière lui. Il a donné des indices au fil des derniers jours. C'était écrit dans le ciel que c'est ça qui allait arriver. Je comprends que les partisans soient déçus parce que Caulfield, il est explosif, il est le fun à avoir joué, il a marqué des buts. Alors, et c'est clair qu'il va aider le Canadien durant des années. Mais je pense que dans son cas, le Canadien essaie le plus possible de ne pas tomber dans le piège dans lequel il est tombé avec tellement de jeunes joueurs, dont Kotkaniemi, de brûler les étapes au nom de quoi on a besoin aujourd'hui, là. Et puis d'y aller tellement à court terme puis de faire preuve d'impatience que finalement tu veux servir le présent. Mais finalement, tu réalises qu'un an et demi, deux ans après, tu te dis, ouais, finalement, peut-être qu'on aurait dû agir autrement. Puis on a eu tellement cette leçon-là souvent, puis je pense qu'on le vit avec Kotkaniemi en ce moment, que les Canadiens se retrouvent dans une position un petit peu difficile à l'égard de Caulfield, mais essaient de résister à cette tentation-là le plus possible. Donc, c'est comme ça que j'interprète la décision des entraîneurs de ne pas avoir recours à Caulfield, à moins d'en avoir absolument besoin.
Mes collègues de ce matin faisaient une analogie que j'ai bien aimée, c'est que Cole Caulfield, c'est le petit piment à deux fins, ouais. Le petit piment qui donne du punch. Et quand tu cuisines, tu commences pas par le piment, tu le gardes pour la fin au besoin.
Ouais, ben,
c'est beau quand même.
Exactement. Oui, c'est une bonne. Oui, ouais, c'est vrai que c'est une bonne analogie parce que il était pas censé faire partie de la recette. T'sais, puis on pense. J'ai l'impression que dans la psyché des amateurs, il y a beaucoup de Claude Lemieux là-dedans. C'est-à-dire une recrue qui arrive et qui fait de la magie en séries éliminatoires. Puis je pense que ce feeling-là est resté depuis 86. Puis on espère toujours justement qu'il y ait une recrue qui débarque, qui fasse une différence. Mais il faisait pas partie de la recette au départ. Puis dans les ingrédients de base, ceux qui doivent servir à faire un plat de qualité, ben t'as des joueurs clés qui eux doivent fonctionner. Puis on s'en est parlé déjà lors de le rendez-vous précédent. Evelyne, ce sont les joueurs clés de cette équipe-là qui doivent faire la différence. Alors effectivement, si à un moment donné tu dis ben ça manque de piment, ça manque de saveur, on va ajouter Caulfield, oui. Mais je pense que la logique derrière tout ça, c'est de dire est-ce qu'on est capable de gagner avec tout notre alignement en santé, hormis Jonathan Drouin, sans qu'on ait besoin de sortir ce joker-là tout de suite. Mm-hmm. Alors, c'est pas évident. La tentation est forte. La pression venant des amateurs est énorme. Alors, j'imagine que Dominique Charme est beaucoup mieux de pas ouvrir les médias sociaux puis de voir ce que les amateurs en pensent.
Et là, du côté du Canadien, c'est étonnamment Jeff Petrie qui a été le joueur le plus productif contre les Leafs cette saison avec 10 mentions d'aide en autant de matchs. Mais c'est pas tant une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il n'y a pas un joueur qui s'est illustré plus que ça comme marqueur contre cette équipe-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur qui l'équipe peut s'appuyer, tu penses? Puis si la réponse est non, c'est pas tant négatif non plus si c'est un effort d'équipe qui se crée, là. Mais...
Ouais. Je pense que Josh Anderson est probablement un joueur qui pourrait faire la différence. C'est un joueur qui a beaucoup dérangé les Maple Leafs par son échec avant, par ses mises en échec. Le nombre de fois où on a vu entre autres Jake Muzzin, le défenseur des Leafs, se débarrasser de la rondelle rapidement parce qu'il savait qu'il était sur le point de se faire frapper par Anderson. C'est un gars qui peut faire une différence. Est-ce qu'il peut faire une différence en marquant des buts sur un trio avec Perry et Stahl? J'en doute un petit peu, mais je pense que il est quand même un élément important. Nick Suzuki également. Sur l'avantage numérique, oui, mais je pense qu'à 5 contre 5, c'est là où Toffoli, lui, doit servir davantage l'équipe au point de vue offensif. Évidemment, quant au trio de Dano, je m'attends à une production honnête, mais surtout, je vais espérer de ce trio-là qui termine kiff-kiff avec les gros canons des Leafs. Parce que c'est des missions qui ressemblent un petit peu à ce que Tomáš Plekanec avait dans le temps. Mm-hmm. Et tu sais, on peut pas nécessairement s'attendre à ce que ce trio-là, aussi efficace soit-il, remplisse le filet. Mais s'il peut avoir donné deux buts à 5 contre 5 et ce trio-là réussit à en marquer deux, je pense que le Canadien va être content. Mais il va falloir que ce soit sur les deuxième, troisième et quatrième trios que la bataille se gagne.
Et je te laisse
une lourde tâche.
Oui, quand même. Oui, je te laisse aller, mais je comprends que ta prédiction, c'est Leafs en 6. Tu m'as dit tantôt que le Canadien va chercher deux. Oui, OK.
Ouais, c'est ça. C'est ma prédiction, mais il y a tellement une unanimité autour du fait que les Leafs vont gagner que dans ce temps-là, on n'est pas à l'abri d'une surprise, donc ça va être intéressant à voir. Oui, j'ai hâte de voir ça.
Merci. On se reparle sans faute dimanche prochain.
Très bien, Evelyne. Bye-bye.
On s'en va à la pause. Au retour, on revient sur la dernière semaine du CF Montréal avec Vandril Lefebvre.